Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Bonsoir François Dubet.
Bonsoir.
Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cet échange. Il faut que je parle plus fort, il faut que je me rapproche. Merci de me le signaler. C'est quand même mieux
quand on s'entend.
Je vous présente quand même en deux mots, même si je pense qu'ici à peu près tout le monde vous connaît. Donc, vous êtes sociologue. Professeur émérite, je crois, à l'Université de Bordeaux.
Ça veut dire retraité.
Vous avez été directeur d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. Et alors, il y a deux caractéristiques sur lesquelles on insiste souvent dans votre parcours. C'est d'abord la variété des sujets que vous avez étudiés. Vous avez enquêté en sociologue sur la jeunesse, sur la délinquance, sur les radicalités politiques, sur les inégalités, sur notre perception des discriminations, sur les institutions. Je vais citer quelques livres parmi ceux qui ont marqué le débat public. La galère, en 1987. Le déclin de l'institution, c'était 2002, je crois. Les places et les chances, c'était 2010, si j'ai bien relu mes notes. Plus récemment, le temps des passions tristes au seuil. Et donc, tout récemment sorti, Tous inégaux, tous singuliers, Repenser la solidarité, c'est un titre en trois morceaux. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à votre parcours, c'est que vos collègues sociologues disent de vous que dans votre travail, vous partez toujours des acteurs, de leur expérience et de leur parole, que ça, c'est peut-être votre méthode. Tous inégaux, tous singuliers. Donc, apparu au seuil, il est apparu début mars, c'est ça hein?
Oui, oui.
Et donc, c'est un livre dans lequel vous mettez en lumière une dimension de la transition qu'on connaît actuellement entre les sociétés industrielles, nationales et des sociétés futures qui sont en train de prendre forme. C'est cette dimension, c'est un rapport nouveau aux inégalités, des inégalités qui se multiplient au point peut-être, alors on va beaucoup en parler, de devenir illisibles, voire d'entrer en concurrence les unes avec les autres. Vous analysez toutes les dimensions de ce phénomène et vous interrogez aussi sur la place de la sociologie dans cette évolution et sur l'histoire de la sociologie. C'est un point qu'on abordera dans un deuxième temps. Mais pour commencer, peut-être, vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par régime des inégalités multiples. C'est l'actuel régime des inégalités, si je vous ai bien lu. Alors, je cite juste une phrase qui peut-être peut nous éclairer. Chacun est inégal en tant que, et selon une liste infinie, en tant que salarié, en tant que travailleur précaire, en tant que chômeur, mais aussi en tant que jeune ou vieux, homme ou femme, en tant qu'habitant de tel type de quartier, en tant qu'appartenant ou non à telle minorité, discriminée. Dans ce régime des inégalités multiples, chaque individu se sent inégal en fonction des inégalités qui le traversent.
Oui, alors il faut peut-être faire un petit effort historique, si je peux me permettre. D'abord, je ne m'intéresse pas, parce que je n'en ai pas les compétences, et parce que je crois que c'est un vrai travail de Sisyphe, enfin, ça ne s'arrête jamais. Je ne m'intéresse pas dans ce livre, en tout cas, à la mesure des inégalités. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de savoir si les inégalités se sont creusées, si elles se sont réduites. Alors, non pas parce que je serais totalement incompétent, mais parce que dès qu'on entre dans cette question, c'est en réalité extrêmement compliqué, parce que certaines inégalités se sont creusées, d'autres se réduisent. Donc c'est très difficile de faire un tableau général, alors même si le sentiment collectif, c'est que les inégalités se creusent. Mais quand on a des sondages des années 60 où les inégalités se réduisaient, 80% des Français pensaient qu'elles se creusaient. Donc les inégalités, ça se creuse par définition. Mais quand on regarde de près, certaines se sont développées, d'autres se sont réduites. Tout ça, c'est assez compliqué. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les inégalités telles qu'on les mesure et les inégalités telles qu'elles sont perçues. C'est-à-dire, il y a des inégalités qu'on voit, d'autres qu'on voit pas, certaines qui paraissent injustes, d'autres qui ne scandalisent pas, et on voit que la perception des inégalités varie considérablement entre les sociétés. Je prends un exemple très banal. La société américaine est à peu près deux fois plus inégalitaire que la nôtre. si on compare les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, et grosso modo, les Américains pensent que c'est beaucoup plus tolérable que ne le pensent les Français ou que ne le pensent les Norvégiens, qui sont encore moins inégaux que ne le sont les Français. Donc, la question qui se pose, que je me suis posée, c'est pas celle de l'ampleur des inégalités, c'est celle de la nature des inégalités. Alors, sur la nature des inégalités, je vais dire des choses extraordinairement triviales, banales. On est censé apprendre ça en première année de sociologie. C'est que le premier régime d'inégalité qu'on a connu, c'est ce qu'on appelle des inégalités de caste. Bon, c'est-à-dire que les groupes sont inégaux. Les maîtres et les esclaves, les seigneurs et les paysans sont inégaux. Mais on considère que les individus qui composent ces groupes sont aussi inégaux. C'est-à-dire que, par exemple, les inégalités entre les hommes et les femmes sont traditionnellement des inégalités de caste. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont inégales. Dans des sociétés, on considère que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Du point de vue de la nature ou du point de vue de Dieu, c'est des affaires un peu plus compliquées. Après les révolutions démocratiques, on va affirmer, et à partir de là, on va avoir des ennuis, si je peux me permettre, on va affirmer que tous les hommes, les femmes, ça arrivera un peu plus tard, que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc, on va avoir des inégalités sociales, mais entre des individus considérés par ailleurs comme étant égaux. Ce qui va nous poser des questions tout à fait considérables. Comment justifier les inégalités sociales alors que les individus qui les composent sont par ailleurs considérés comme égaux? Ça, c'est la grande question qui se pose dans les sociétés démocratiques. Et cette question, elle va engendrer un nouveau régime d'inégalité dans les sociétés qui, au même moment, s'industrialisent et sont des sociétés nationales de plus en plus homogènes. Hein. D'ailleurs, les sociologues, quand ils disent société, ils veulent dire société nationale. Hein. Voilà. Quand Durkheim dit la société, il veut dire la France. Voilà.
Et c'est encore le cas aujourd'hui
C'est encore très largement le cas, on y reviendra, c'est de moins en moins le cas. Et dans ce système d'inégalité de classe, qui est le système dans lequel moi j'ai vécu, au fond, jusqu'aux années 80, grosso modo, on a affaire à des inégalités qui opposent des communautés de classe, des ensembles de classe sociales, les ouvriers, les paysans, les bourgeois, enfin, on est dans le monde, je sais pas, de Zola, de Mauriac, voilà, on est dans un monde où les inégalités opposent des collectifs, et grosso modo, la classe sociale va agréger toutes les inégalités. C'est-à-dire, quand vous êtes ouvrier, vous avez ce type de travail, ce type de revenus, mais vous avez ce type de culture, ce type de loisirs, voilà. Quand vous êtes un bourgeois, ben vous avez ce type de culture. Quand vous êtes un ouvrier, vous aimez l'accordéon et la viande rouge. Quand vous êtes un bourgeois, vous aimez l'opéra et le poisson. C'est comme ça. Voilà. Le monde est organisé comme ça, autour de ce conflit, qui est un conflit assez violent, évidemment, mais dans lequel les individus se sentent, je dirais, l'inégalité de classe protège l'individu. Il y a un sentiment d'injustice très fort, mais je suis pas... cette inégalité ne me porte pas atteinte dans ma dignité d'individuel. On a plein d'enquêtes, les ouvriers disent « je suis pas plus bête qu'un autre, j'ai la même valeur que les autres, je suis victime d'une injustice qui s'appelle l'exploitation, etc. » Donc, on a vécu comme ça, et c'était très important parce que c'est comme ça qu'on voyait la société. Une ville comme Bordeaux, ce n'est pas bien compliqué de dire là où sont les bourgeois, là où sont les ouvriers. Il y avait même d'ailleurs à Bordeaux, il n'y a pas si longtemps que ça, l'idée qu'entre la rive droite et la rive gauche, quand même, c'était un peu incompatible.
La lutte des classes.
Voilà, c'était la lutte des classes. Et même quand on a fait le tram, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que ça allait faire venir un peu de... Voilà. Bon, donc, on était dans ce monde-là. Alors, pourquoi c'est comme ça qu'on voyait le monde? Pour deux raisons, je crois. Enfin, il y avait trois conséquences, en tout cas. La première, alors ça vaut pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. J'y reviendrai peut-être moins pour les États-Unis. Mais on est dans ce monde de classe. Et il y a, au fond... Trois conséquences. La première de ces conséquences, évidemment, c'est le poids quasi automatique du destin social. C'est-à-dire, l'école que j'ai connue, par exemple, il y a très très loin au siècle dernier, c'était une école de classe. Les enfants du peuple allaient à l'école élémentaire, les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée, les filles allaient dans l'école des filles, les garçons dans l'école des garçons, et seuls les meilleurs des enfants des ouvriers pouvaient espérer aller au lycée, mais point trop n'en faut. Je pourrais même donner des résultats d'enquête tout à fait sidérants dans les années 50. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la représentation politique s'est faite autour de ça. C'est-à-dire que dans toutes ces sociétés industrielles, les inégalités sociales de classe ont eu une expression politique. Alors, c'est pas aussi simple que je le raconte, évidemment, mais grosso modo, la gauche et la droite. La gauche, c'est les travailleurs, les exploités. La droite, c'est les autres. Et ça marchait assez. Je veux dire, si vous prenez l'élection de Mitterrand en 81, ça marche encore. C'est-à-dire, les ouvriers votent à gauche, les petits fonctionnaires votent à gauche, les petits entrepreneurs votent à droite, les paysans votent à droite, les bourgeois votent à droite. Chacun vote à peu près en fonction de sa position de classe. Il y a des syndicats, des associations. Autrement dit, les inégalités sociales ont une expression politique. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas exactement dans cette situation. Et la troisième conséquence de ça, c'est qu'il y a une conception de la justice sociale qu'on a oubliée, au fond, aujourd'hui, mais qui est très différente de celle que nous avons aujourd'hui, qui est que la justice sociale consiste à... consiste sur un principe de dette sociale, c'est-à-dire que les travailleurs produisant les richesses, il faut que les riches, les patrons, les exploiteurs, redistribuent une partie de la richesse qu'ils ont acquise de manière à réduire les inégalités entre les positions sociales. La justice sociale, ce qu'on appelait quand j'étais gosse le progrès social, c'était que les pauvres seraient moins pauvres, quitte à ce que les riches soient moins riches. Voilà. Et grosso modo, ça a marché. Alors, ça n'a pas marché aussi facilement que je le dis. Il y a eu, en 1936, des grèves, des machins, des trucs. Mais ça a marché à peu près partout. Les inégalités se sont réduites sur ce principe de solidarité. La société est une ruche, au fond. Dans cette ruche nationale, j'insiste bien, nationale, les abeilles qui produisent les richesses doivent recevoir une partie des richesses qu'elles ont données aux reines de manière à réduire les inégalités. Mais la promesse de justice, c'est pas de changer de position sociale, c'est de réduire les inégalités de conditions sociales. C'était ça qu'on appelait le socialisme, pour dire les choses simplement, pour parler de choses dont on se demande si elles ont existé. Voilà. Mais ça a marché, ça s'appelait la social-démocratie, le socialisme, le communisme, appelons ça, le travaillisme, enfin, c'était à peu près comme ça que ça passait. Et donc, dans ce système-là, un tas d'inégalités qui, aujourd'hui, nous scandalisent, à juste titre, sont quasiment considérées comme des inégalités de second rang. Par exemple, les inégalités, vous prenez les années 60, qui ne sont pas le paradis qu'on imagine, les inégalités entre les hommes et les femmes sont considérablement plus fortes qu'elles le sont aujourd'hui. Oui, oui, il y a des mouvements féministes, mais si vous lisez, je vous suggère pas de le lire, le programme commun de la gauche, c'est pas un thème dominant. Voilà. Les inégalités entre les immigrés et les Français, elles sont souvent plus scandaleuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec les bidonvilles, des trucs quand même pas terribles. Mais c'est des inégalités de second rang, parce que ce qu'on voit d'abord, c'est des inégalités de classe. Mon hypothèse, qui n'est pas bien bouleversante, c'est de dire, pour un tas de raisons tenant aux transformations économiques, fondamentalement aux transformations économiques, transformation de la production, aussi probablement pour des raisons tenant à l'extension de la culture de masse, qui fait que les cultures de classe ont été remplacées par des cultures de masse hiérarchisées. Je veux dire, tout le monde a une voiture, mais pas la même. Alors que dans le vieux monde industriel, il y a le patron a une voiture, l'ouvrier a un vélo. Bon. Donc, pour toutes ces raisons, l'école aussi a joué un rôle considérable là-dedans, on y reviendra. ce système a explosé. Mmh. Ce système a explosé. Je voyais même l'affiche d'un candidat trotskiste, là, tout à l'heure, dont j'oubliais le nom, qui parle au nom des jeunes, au nom des minorités. Mais le mot classe, a, même pour lui, a disparu. Mmh. Travailleurs, travailleuses, mmh. ce qui n'est pas exactement... Bon. Donc, on est rentré dans un régime d'inégalité aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement français, où les inégalités se sont individualisées. C'est-à-dire que quand vous faites des enquêtes, les gens vous disent « je suis inégal en tant que ». Je suis inégal sur donc toute la liste d'inégalités que vous avez évoquées, mais on pourra en rajouter. Les Gilets jaunes disent « je suis inégal parce que je vis dans le Médoc ». Je suis inégal en tant que femme, même si par ailleurs je suis cadre supérieur. Je suis inégal en tant qu'immigré, même si par ailleurs j'ai du boulot. Je suis inégal en tant que vieux, en tant que jeune, en tant que... Et chacun d'entre nous a un pet en travers, si je peux me permettre de ce point de vue-là. Moi aussi,
on est tous inégal de quelqu'un.
J'ai beau me forcer, bon, hein. Voilà, on est tous inégal en tant que. Donc l'expérience des inégalités est devenue une expérience individuelle. C'est absolument fondamental. Alors ça a plusieurs conséquences. D'abord, évidemment, il y a une conséquence qui est très très spectaculaire, c'est que le système de représentation politique. Les travailleurs votent à gauche, les patrons votent à droite. Pif, ça a explosé aujourd'hui. Le bobo vote écolo, social-démocrate. Le prolo ne vote pas ou vote vert. C'est le bordel. Voilà.
Les classes populaires votent à droite.
Des classes populaires qui votaient à gauche votent à droite.
Très à droite.
Et pour des raisons extrêmement diverses, etc., etc. L'autre conséquence, évidemment, c'est que je me compare sans cesse aux autres, ce qui fait que l'émotion politique dominante aujourd'hui, c'est le sentiment d'être méprisé. Tout le monde est méprisé. Les Gilets jaunes sont méprisés, les profs sont méprisés, les facteurs sont méprisés, moi-même, je suis assez méprisé. Tout le monde se sent méprisé parce que ça veut dire quoi ? Si j'arrête de plaisanter, ça veut dire que l'inégalité dont je suis victime est devenue invisible. On ne me voit pas. On ne me voit pas dans la singularité de mes inégalités. Et d'inégalités qui se constituent moins sur le mode du destin, c'est un peu subtil, mais que sur le mode du parcours. Bon, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous êtes dans l'école républicaine jusqu'aux années 60, grosso modo, votre destin scolaire est fixé par votre naissance. Et ceux qui font pas d'études se sentent victimes d'une injustice, mais ils se sentent pas humiliés. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, les inégalités scolaires restent très fortes, mais se constituent dans un parcours singulier. Je rentre en sixième, je suis pas dans la bonne quatrième, je fais pas le bon bac, je fais pas le bon machin. À la fin de ces petites inégalités qui s'accumulent dans mon parcours, les inégalités restent grosso modo les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font Polytechnique, et c'est toujours les mêmes qui vont au lycée professionnel où ils n'avaient pas voulu aller. Mais ils n'y sont pas allés par un destin. Ils y sont allés à l'issue d'un parcours singulier. Je sais pas si...
Dans l'illusion d'avoir choisi.
Et ce parcours singulier, il tient à ma naissance, à mes origines, à un tas de facteurs, chaque fois singulier. Je veux dire, par exemple, le fait d'être un enfant d'ouvrier immigré, ça vous donne des chances collectives de moins réussir à l'école, mais beaucoup d'entre eux réussissent. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent pas leur en veulent. Parce que le fait qu'ils réussissent montre que ils auraient pu réussir. Bon, et on peut faire ce raisonnement sur les femmes, sur tout le monde. Et dans ce cas, tout le monde est dans ce cas. Et donc on a un paysage d'inégalité qui à la fois devient une sorte de patchwork d'inégalité. Par exemple, les villes sont plus riches que les campagnes, mais il y a beaucoup plus de pauvres dans les villes qu'il y en a dans les campagnes. Bon, c'est un truc qu'on oublie souvent. Et à la campagne, tout le monde n'est pas pauvre. Voilà. Et si je vis mieux parce que le foncier y est beaucoup, beaucoup moins cher, l'essence y est beaucoup, beaucoup plus nécessaire. Donc, voilà, vous êtes dans un système qui n'agrège plus les inégalités autour d'expériences collectives et qui les singularise. Ça, c'est vraiment un changement fondamental qui ne s'explique pas simplement en termes de les inégalités sont plus grandes ou plus fortes, elles ont changé de nature. Alors, je vais m'arrêter sur un dernier point, la conception de la justice. Ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. La conception de la justice a changé. Quand vous êtes dans l'ancien système de classe, comme je le disais, la justice, c'est de rendre aux producteurs une partie des richesses qu'ils ont produites. Voilà. Améliorer les conditions de vie, de logement, etc. etc. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les discours, dans la philosophie politique, dans tout le monde, la conception que nous avons de la justice, c'est l'égalité des chances d'accéder à des positions inégales. Hein, c'est-à-dire que la justice, c'est que tout le monde, c'est pas tellement de réduire les inégalités de conditions, c'est de faire que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder aux positions sociales, fussent-elles d'ailleurs très inégales. Alors ça, évidemment, l'école là-dessus a joué un rôle décisif, puisque au fond, l'image que nous avons de la justice est celle d'une sorte de compétition sportive parfaite. Voilà, la compétition s'ouvre, on est tous égaux.
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Et si le meilleur gagne, il ramasse la prime. Personne ne va le contester. J'ai monté ma boîte, j'ai des diplômes. Et donc, il y a un problème pour la solidarité, si je peux permettre, parce que dans l'ancien système, quand vous êtes riche, vous devez quelque chose aux autres, puisque vous leur devez quand même votre richesse, entre guillemets, tandis que là, si vous ne devez votre succès qu'à votre mérite, un, vous devez rien aux autres, et deux, ceux qui n'ont pas de mérite n'ont qu'à se débrouiller avec leur culpabilité, leur sentiment de mépris, et il faut bien le dire, leur ressentiment et leur haine, puisque soit vous êtes écrasé par votre sentiment de ne pas avoir fait ce que vous pouviez faire, soit vous accusez évidemment les autres d'être responsables de votre malheur. Ce qui fait qu'on a ce climat très très étrange au fond. Quand on change de régime d'inégalité, c'est que là où on voyait de l'exploitation, on voit des discriminations. On voit des discriminations partout. Je signale d'ailleurs que la définition légale de la discrimination en 2000, c'était 4 critères de discrimination qu'on pouvait faire valoir devant la justice, qui étaient le sexe, la sexualité, la religion et la race. Aujourd'hui, on est à 22. 22 critères de discrimination, ça veut dire que toute inégalité est une discrimination. En fait. Je suis trop grand, je suis trop gros, je suis handicapé, je vis à la campagne, j'ai de l'accent. Enfin, tout fait discrimination. Tout ce qui était... On a transféré, ce qui était exploitation devient discrimination. Et donc, il y a une sorte de concurrence des discriminations, ce qui a d'ailleurs un effet, mais on va peut-être en reparler, de retour du refoulé, c'est que ceux qui ne sont pas discriminés finissent par dire, n'étant pas discriminé, je le deviens puisque je ne peux faire valoir aucune discrimination. C'est le trumpisme, si vous voulez. Hein. Je suis pauvre, maltraité dans les Appalaches, et on fait rien pour moi parce que je suis pas noir, mexicain, etc. Donc je déteste tout le monde. Et donc on est dans un système où on finit par en vouloir aux riches, mais aussi en vouloir aux plus
légèrement plus
riches, aux plus pauvres, aux assistés, aux feignants, aux étrangers, etc., etc. Donc voilà. Je crois que ça s'explique par cette transformation profonde des inégalités. Quand on sort de la société industrielle, c'est-à-dire des sociétés de mobilité, des sociétés où rien n'est fixé. Je prends un exemple pour bien me faire comprendre, qui est vaguement technique, mais rassurez-vous, c'est pas compliqué. Si vous considérez la mobilité sociale en distinguant, disons, 4 catégories, en haut, le milieu supérieur, le milieu inférieur et inférieur, grosso modo, il y a très peu de mobilité sociale, c'est-à-dire qu'on reste dans sa catégorie. Bon. Mais si vous prenez 15 catégories, les ouvriers qualifiés, moins qualifiés, les employés avec sécurité, les employés sans sécurité, etc., là, tout le monde bouge. C'est-à-dire que vous avez à la fois, vous n'avez pas l'espoir d'une vraie mobilité, mais vous avez l'anxiété du fait que rien n'est garanti et que tout va se jouer dans votre parcours personnel. D'où l'obsession du déclassement. Par exemple, si on demande aux Français ce qu'ils pensent du déclassement, 64% des Français vous disent qu'ils craignent d'être SDF.
Alors que la probabilité, elle est faible.
La probabilité est très faible, puisque plus de la moitié d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Bon, tout simplement, c'est quand même pas compliqué. Mais ça signifie bien ça, c'est-à-dire que à l'école, tout va se jouer. Alors qu'autrefois, c'était le destin qui se jouait à l'école, et au fond, l'école confirmait les destins pour l'essentiel. Aujourd'hui, je réussis, je réussis pas, tout va se jouer. Donc, on est dans un système d'inégalité qui n'est pas simplement... Ce qui me distingue d'une partie de mes collègues économistes, c'est pas simplement elles sont plus grandes ou plus petites, elles ne sont plus de la même nature. Mmh. Voilà, c'est ça mon hypothèse.
Et alors, vous disiez que donc les inégalités elles se fractionnent, elles se multiplient, elles s'individualisent. Vous disiez que ça a des traductions en termes d'expression politique, parce que c'est vrai que le clivage droite-gauche est beaucoup moins lisible. Et ça pose aussi la question de la cohésion et de l'idée même de solidarité, puisque finalement. On a l'impression d'un paysage complètement atomisé. Et c'est l'un des enjeux aussi de votre livre.
Mais la question que je me pose, c'est pas de savoir si c'était mieux avant. Mm. Bon, c'est une question de vieille personne. Non, mais c'est une question...
Oui, en plus, par vos travaux, vous avez montré que système d'avant...
C'est une question nostalgique.
Vous étiez critique.
Et personne n'aimerait revenir dans le fameux avant. Ouais. Bon, à part... candidat à l'élection présidentielle. Oui. Bon, voilà. Mais on peut avoir des nostalgies, ça c'est un sentiment agréable, mais objectivement c'est pas ça qui se joue. En revanche, ce qui pose un problème, c'est que l'ancien système développait un modèle de solidarité, on peut dire de fraternité. Il y avait d'un côté la fraternité des travailleurs, des grands collectifs de travail. Camarades, enfin, c'était pas moi, ça me touchait beaucoup quand même, ces mots. On est semblable par le travail. Alors, on s'oppose à d'autres, mais on est semblable par le travail. C'est pas simplement du corporatisme, enfin, c'est de la fraternité. Et donc, le travail créait un lien. Le père fondateur de la sociologie française, qui s'appelait Durkheim et qui était prof à Bordeaux, appeler ça, c'était une très jolie formule, la solidarité organique, c'est-à-dire qu'on est, on dépend les uns des autres. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'étais gosse, c'était une image qu'on avait, c'est-à-dire que les paysans faisaient du blé, les ouvriers des voitures, et tout le monde dépendait de tout le monde. Il y avait cette image comme ça, un peu organique. Évidemment, avec le système économique dans lequel on est, on découvre qu'on dépend organiquement des Chinois. De Poutine, en fait, des choses extrêmement désagréables. Bon, donc le lien organique, les mutations du capitalisme l'ont quand même cassé. Et puis la seconde chose, la dimension symbolique de la solidarité, alors ça, c'est un thème qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'il est désagréable. Parce que ceux qui s'en saisissent, de mon point de vue, ne sont pas des gens très agréables. Mais quand même, le sentiment de fraternité qui était d'abord un sentiment religieux, nous sommes frères parce que nous sommes les fils du même Dieu, c'était quand même ça, la fraternité religieuse, et les sœurs étant un peu moins fraternelles d'ailleurs que les frères, ce sentiment a été remplacé évidemment par la nation. La nation, c'était l'idée que je fais des sacrifices pour des gens que je ne connais pas mais dont je suis semblable. C'est ça, le sentiment national. Je laisse de côté la guerre, la haine, etc. C'était de dire, au fond, je vais payer, parce que la solidarité, c'est pas, de mon point de vue, le problème, c'est pas de recevoir. Mm-hmm. La question c'est de la solidarité, c'est de savoir quel sacrifice je suis prêt à consentir pour d'autres. Mm. C'est ça, la solidarité. C'est pas recevoir, c'est-à-dire quel sacrifice je suis prêt à consentir pour que d'autres se soignent, pour que d'autres soient éduqués, pour que d'autres soient protégés. L'imaginaire national, c'était un imaginaire de solidarité, qui d'ailleurs était même terrifiant d'une certaine façon, puisque c'était le sang. Enfin, après tout, le sang versé. Il y a un très, 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 très joli livre d'un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Proulx, sur les monuments au monde de la guerre de 14, qui est un livre assez touchant, qui montre que c'est quasiment jamais l'exaltation de l'héroïsme, c'est l'exaltation du sacrifice. J'ai donné mon sang aux autres. C'est ça. Bon, l'imaginaire national, c'était de dire, il y a quelque chose comme une histoire et une culture nationale, avec des, même des aspects un peu étranges, du style les frontières naturelles. Ça, c'était, vous avez, Dieu avait prévu les Pyrénées. Bon. Et comme le Rhin avait le mauvais... Enfin, tous les problèmes venaient de cette frontière naturelle qui n'était pas très efficace. Bon. En tout cas, on avait cet imaginaire, et cet imaginaire fait que, par exemple, les immigrés étaient considérés comme des travailleurs qui deviendraient nécessairement français. Il y avait du racisme, il y avait un tas de trucs, mais un immigré, c'était un Espagnol qui deviendrait français par le travail, par l'école, et qui aurait le droit de faire... de manger la pizza le dimanche à condition de pas trop se faire voir. Bon, évidemment, cet imaginaire-là est en train. Alors, je crois que la nation continue à exister.
Ah, vous en parlez beaucoup, bien évidemment. Ça m'a surpris d'ailleurs.
Mais cet imaginaire national, évidemment, il a complètement explosé parce que les cultures de masse sont des cultures complètement internationales. Je veux dire, vous regardez Netflix ou je sais pas quoi, c'est pas. Vous regardez pas tous les soirs Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Voilà, ça a explosé. Les gamins écoutent des trucs qui n'ont rien de national. Et puis, le droit à l'identité s'est complètement affirmé, développé, ce qui fait que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui disent « Mais au fond, est-ce que ça vaut la peine de faire des sacrifices pour des gens dont je suis pas sûr qu'ils sont semblables ?» Voilà. Je suis pas sûr qu'ils sont semblables.
Donc, ce cadre national, il avait un mérite, quand même, de votre point de vue.
Alors, donc,
bien qu'excluant une partie de...
Ben, je crois que la dimension, mais ça pose un problème très, très, très compliqué, c'est que la solidarité suppose une dimension symbolique. Mmh. Voilà. Je pense que les Ukrainiens seront très solidaires. Mmh. Parce que c'était pas une nation très intégrée, très sympathique, l'Ukraine, mais brutalement, oui, ça va le devenir. Mmh. Je sais pas, de manière tragique. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que or, on voit, et ça, c'est pas une affaire française, je veux dire, les Anglais, les Américains, les Allemands, vous imaginez les Allemands qui sont pleinement Allemands avec des noms turcs. Si vous aviez dit ça à Herder, enfin, grand philosophe allemand de la fin du 19e siècle, il aurait dit, vous êtes malade. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, les dimensions fonctionnelles de la solidarité, l'économie, etc., et les dimensions symboliques, sont quand même, de mon point de vue, de plus en plus faibles. Et ça se manifeste d'ailleurs dans les programmes électoraux, mais je vais peut-être pas consacrer la soirée à ça, mais qui ciblent de plus en plus des
cibles, justement.
Des cibles, c'est-à-dire je cible telle catégorie, tel groupe culturel, tel truc, parce qu'il faut bien faire tenir ensemble des choses qui ont tendance à se séparer, à s'autonomiser. Donc on est dans un moment où, qui n'est pas nouveau dans l'histoire, où un vieux régime d'inégalité est en train de s'épuiser. Et on a le sentiment, évidemment, de vivre dans un truc assez compliqué, pénible, parce que d'une certaine manière, on a beaucoup de mal à en percevoir les mécanismes et ce qui pourrait permettre d'agir collectivement là-dedans.
Et oui, et l'articulation genre, race, classe, elle n'est pas toujours simple en fait, aussi bien pour les penseurs que pour ceux qui sont des praticiens de la politique. On voit que c'est.
Mais on le voit par exemple sur cette histoire qui, dans le jargon de ma profession, s'appelle l'intersectionnalité. Ouais. C'est une chose qui pour moi est un peu étrange parce que d'un côté, dire vous êtes un homme. Qualifié, vivant à la campagne, hétérosexuel, etc., etc., blanc ou noir, etc. Bon, c'est pas une nouveauté. Les sociologues ont toujours su faire ce qu'on appelle de l'analyse multivariée. Alors, c'est-à-dire, je mets les gens dans des colonnes et je calcule l'influence des trucs. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vous avez une pensée sociale qui part de l'expérience d'une minorité et recompose une image de la vie sociale à partir de cette expérience. C'est-à-dire que je vais agir en tant que femme homosexuelle noire. Je vais agir en tant que jeune musulman blanc. Je vais agir en tant que paysan du Languedoc avec 6 siècles d'enracinement local. Donc, vous avez une action, une représentation de la société qui s'est elle-même, de mon point de vue, qui s'est elle-même un peu fractionnée. Mm-hmm. Je ne sais pas si...
Oui, et qui ne permet pas un discours collectif.
Évidemment, on finit par la concurrence des victimes. Il y a eu une petite querelle qui n'a pas un intérêt considérable dans le monde des sociologues, mais de gens qui s'insultaient en disant « Moi, je crois que c'est d'abord les classes sociales, moi, je crois d'abord que c'est les races. » Bon, évidemment, c'est absurde.
Il faut les deux.
Eh ben, oui, oui. Oui.
Alors justement,
les deux, voire les trois, voire les quatre.
Vous en venez à la question des sciences sociales. Vous vous rappelez dans votre livre que la sociologie, son apparition est très liée à l'apparition aussi de ce cadre industriel, démocratique, de la modernité. Alors finalement, je me suis dit, si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que la sociologie, c'est pas terminé ?
Ben, c'est très embêtant pour moi de dire ça, parce que comme moi-même, je suis en train de me terminer, y a quelque chose d'un peu... c'est une tendance un peu désagréable de dire... j'étais musicien, je vieillis, la musique va disparaître avec moi. Donc c'est quand même un peu désagréable. Mais si on est sérieux, c'est quand même une question qui se pose. En tout cas, un certain type de pensée sociale va se terminer. La sociologie, historiquement, c'est des gens qui disaient on a vécu dans des sociétés d'ancien régime, fondamentalement, c'est-à-dire des sociétés placées sous l'autorité de Dieu et de la tradition. C'est ça qui faisait des sociétés. Bon. Dieu disparaît, enfin, il disparaît, il cesse d'organiser la vie sociale, il disparaît pas, mais il cesse d'organiser la vie sociale, et toute la modernité, c'est la destruction permanente des traditions. Donc vous avez à ce moment-là toute une pensée sociale qu'on a oublié, mais qui dit c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, c'est le marché, il y aura plus que du marché, de la violence, de l'exploitation pure et dure. Au fond, la modernité, c'est la destruction du monde social et c'est une forme de barbarie qui est une pensée qui a toujours existé un peu chez les sociologues, qui est légitime, même dans cette peur d'être dans un monde dominé par les lois, les seules lois du marché, le seul égoïsme, etc., etc. Bon, c'est un thème. Une question qui se posait, par exemple, c'est comment fonder la morale quand il n'y a plus Dieu. Ces questions qui aujourd'hui nous paraissent un peu étranges. Mais
la République était une forme de réponse.
Alors la République, elle a trouvé une réponse assez particulière. Mais en tout cas, ces questions-là. Les sociologues, c'est les gens qui disent. C'est pas ça qui se passe. Il se construit un monde. Il se construit un monde autour de valeurs partagées, la nation. On va d'ailleurs en France confier à l'école la fonction de remplacer l'Église. C'est-à-dire que j'avais écrit un bouquin que vous avez cité, qui m'avait beaucoup amusé, qui montrait que l'école républicaine avait combattu l'Église en continuant le modèle institutionnel de l'Église, c'est-à-dire que l'école républicaine fabriquait des républicains comme l'Église fabriquait des croyants. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre. Et puis il y avait cette idée que le capitalisme c'était à la fois la lutte des classes, mais que c'était à la fois une société organique, c'est-à-dire que il y avait des communautés de travailleurs, des intérêts communs entre les patrons et les ouvriers, une confiance dans la technique, etc. Donc les sociologues ont représenté la société comme une sorte d'organisme et de communauté. En général, les sociologues étaient des gens bien et disaient que tout ça tenait parce qu'il y avait un système démocratique. C'est-à-dire que la confiance très forte, c'était de dire la démocratie, c'est ce qui transforme du conflit en intégration sociale. Hein, le miracle démocratique, c'est la représentation démocratique représente les conflits et le jeu démocratique transforme le conflit en institution, en loi, en règles, en compromis, etc. C'était ça qu'ont fabriqué les sociologues. Alors, les sociologues dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, et notamment d'ailleurs les sociologues américains qui avaient ce problème, eux, le problème communauté, il avait bien avant nous aux États-Unis, qui n'était pas une société se vivant comme homogène de la même manière que les Français. Évidemment, aujourd'hui, la sociologie n'est ce qui fait que la sociologie, si vous voulez, était une sorte de théologie de la société. C'était la représentation philosophique de l'idée de société. Moi, quand j'ai appris la sociologie, c'est comme ça que je l'ai appris, qu'on soit marxiste ou qu'on soit pas marxiste, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Évidemment, aujourd'hui, la sociologie devient plutôt la manifestation de l'expérience des acteurs et la description infinie du fractionnement infini de la société. Je ne sais pas si...
Et de la sociologie, elle
je me fais comprendre. Ce qui fait d'ailleurs que là, il y a une reprise en main de gens qu'on croyait disparus, qui sont les philosophes, qui disent le grand problème, et ils n'ont pas tort, c'est de trouver un accord sur une philosophie politique et morale. Le grand nom qui a dominé les 40 dernières années, c'est John Rawls, qui fait une théorie comme ça du compromis, comment on peut arriver à faire société, etc. Ou en Allemagne, c'est Habermas. C'est donc des gens qui disent on va s'en sortir par la philosophie. Et puis les économistes. Les économistes sont, au fond, les économistes sont des gens qui avec souvent beaucoup de technique et pas mal de talent, ben, d'une certaine manière, refabriquent l'image d'un organisme social autour des mécanismes économiques. Ce qui fait que ce que je peux craindre, mais c'est un peu dérisoire, c'est que les sociologues s'occupent des restes. Voilà. Mais. Ça, au fond, ça n'aurait rien de bien tragique, après tout. En tout cas, c'est une question qui se pose aujourd'hui, c'est notre capacité de nous représenter la vie sociale comme une totalité. Ce que faisaient les sociologues et qui devient un exercice quand même de plus en plus difficile. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Vous lâchez le mot laïcité, tout le monde est pour, et personne n'est d'accord. Voilà, parce que une forme de compromis française qui était au fond d'être dans une société très profondément catholique et en même temps parfaitement anticléricale, s'est cassé. Plus personne ne se sent catholique et ne sait plus quoi faire d'une religion qui a déserté l'organisation de la vie sociale et qui se méfie de tout retour du religieux qui pourrait empiéter. Alors qu'on vivait dans cette espèce de compromis que la loi de 1905 d'ailleurs avait assez admirablement réglé. Donc on voit que tous ces grands équilibres, d'une certaine manière, se sont défaits. Alors que la sociologie surfait sur cette évidence des choses.
Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une religion de la technologie? Est-ce que c'est pas là que nos croyances se concentrent aujourd'hui sur cet objet?
Il y avait un sociologue très très célèbre qui n'était pas le plus optimiste des pères fondateurs de la sociologie, qui était Weber, et qui parlait de guerre des dieux. C'est-à-dire et je crois qu'on est plutôt aujourd'hui dans la guerre des dieux, c'est-à-dire fond, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, et j'ai été très troublé par des sondages qui ont été réalisés auprès des jeunes. Bon, qui disent au fond, j'ai le droit de mener la vie que j'ai envie de mener, de croire à ce que je veux croire, et je suis pas totalement hostile à un pouvoir très autoritaire parce que dès lors que l'accord ne se fait plus entre des individus autour de croyances partagées, il faut bien qu'il y ait une force supérieure qui garantisse l'ordre. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très troublant d'une certaine manière parce que d'habitude les gens très libéraux dans leur vie personnelle étaient très libéraux politiquement. Aujourd'hui, non,
une dissociation.
Vous pouvez avoir un libéralisme culturel lié à un autoritarisme politique, un libéralisme économique radical lié à un conservatisme culturel, tout ça c'est complètement déboîté. Donc le problème que nous avons, c'est de refabriquer au fond, et je ne vois pas d'autre solution dans les sociétés démocratiques que ben, le débat démocratique, la discussion, la rationalité, etc. Alors là-dedans, la technologie joue un rôle. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que jamais la technologie n'a été aussi puissante. Enfin, D'ailleurs, dans les mouvements sociaux, elle joue un rôle essentiel. Puisque vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, ça menace y compris la presse écrite, d'ailleurs. C'est que si vous voulez faire un mouvement social en 1980 encore, il faut que vous trouviez des camarades, il faut que vous trouviez une salle pour vous réunir, il faut que vous trouviez un imprimeur pour tirer des tracts, il faut que vous trouviez un journaliste de Sud-Ouest qui relaie vos revendications. Et donc, vous avez tout un tas de processus qui vont à la fois fédérer vos colères et les refroidir. Bon. Aujourd'hui, moi, j'ai assisté à des manifestations aux Gilets jaunes et à Antivax et j'étais fasciné. Et chacun est un mouvement social à lui tout seul. Alors, c'est un formidable progrès, parce que j'ai plus besoin du curé, de l'instit, du militant, du parti
communiste, puis les printemps arabes,
du journaliste, pour accéder à la parole publique. Donc, c'est un progrès démocratique incontestable. Mais en même temps, vous assistez à une manif dans laquelle tout le monde manifeste pour, en ayant chacun une raison parfaitement singulière de manifester avec d'autres dont il ignore tout. Sauf qu'il déteste Macron. Mais bon, c'est un principe... ça peut être légitime, mais ça fabrique quand même pas. Et d'ailleurs, ça ne fabrique aucun programme politique. Aucune revendication. Il n'y a pas de revendication. Voilà. Donc ça, la technologie a complètement bousculé les choses. En même temps, ce qui me frappe, c'est que si vous regardez la société industrielle, je dirais, alors la France des années 50-60 est très caractéristique de ça, il y a une confiance dans la technologie absolue. Je veux dire, on est dans le monde de Jules Verne, enfin, je veux dire. Et y compris, d'ailleurs, si vous êtes marxiste, s'il y en a qui le sont ici, on croit dans les forces productives de la science, du progrès, de la technique, des machines. Aujourd'hui, on est envahi par ça, et il y a une défiance.
Ouais, c'est paradoxal.
Incroyable. Je veux dire, on n'a jamais été aussi bien soigné qu'aujourd'hui. Si j'en juge par un critère tout bête, bah oui, non, quand même, qui s'appelle l'espérance de vie. Bah, c'est pas un détail. Bon. Les gens vous disent que la médecine, c'est des foutaises. Vous voyez, donc... Ce que mon maître Alain Touraine appelait les garants métasociaux, c'est-à-dire les croyances qui structuraient, ont quand même énormément faibli. Et je suis frappé par l'espèce de disjonction que nous avons entre nos expériences personnelles et nos représentations collectives. Je vais donner un exemple pour vous... essayer de vous faire comprendre, si j'en juge par le nombre de cheveux blancs qu'il y a dans la salle, je devrais être compris. Quand vous regardez, quand vous voyez ce qu'est un militant dans les années 60-70, donc grosso modo, c'est un communiste ou un catholique, pour dire les choses, quelquefois d'ailleurs les deux, à la fois. C'est quelqu'un qui a un engagement moral et politique et qui essaie, plus ou moins, d'avoir une pratique personnelle conforme à ses engagements. Voilà. Grosso modo. Aujourd'hui, quand vous regardez les formes d'engagement, vous avez d'un côté des indignations, de l'autre des pratiques. Et je suis très frappé de voir que vous n'êtes que vous vous sentez de moins en moins tenu. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Ça dépend, les véganes, par exemple, ils sont cohérents.
Oui, mais ce sont plutôt des formes de transfert d'une pensée religieuse sur des pratiques
sociales. Pureté.
Mais par exemple, vous pouvez être écolo, je dis ça dans une ville écolo d'ailleurs, où vous pouvez dire il faut faire des éoliennes, mais soutenir vigoureusement les gens qui s'opposent à l'installation d'éoliennes chez eux. Vous pouvez, voilà. Je vais prendre un exemple qui évidemment m'intéresse beaucoup et sur lequel je n'ai pas de jugement moral, je le précise. Vous pouvez être très très favorable à l'égalité scolaire, très favorable, même prêt à manifester et à mourir pour l'égalité scolaire, Mais en ce qui concerne la scolarité de vos enfants, il n'en est pas question.
Oui, ça, on connaît tous.
Voilà,
les...
on connaît tout ça. Oui. Dire. Voilà, on est tous favorables à la médecine publique, mais on préfère les cliniques privées. Enfin, voilà. Parce qu'il y a une... Alors, il ne faut pas porter un jugement moral en disant c'est pas bien. Je crois qu'il faut admettre que ce qui faisait société, c'était l'emboîtement, un peu à la Bourdieu, si vous voulez, l'emboîtement de l'expérience personnelle dans des catégories collectives. C'était ça. C'était pour dire les choses simplement, des valeurs se transformaient en normes, des normes se transformaient en personnalité. Voilà. Donc on était comme des personnages de romans. Hein, voilà. Aujourd'hui, ce mécanisme ne fonctionne pas. Donc vous avez, même au niveau des individus, des choses qui sont cassées, alors qu'ils sont, au fond, qui sont quand même le triomphe de la liberté. Donc c'est très bien. Moi, je ne suis pas hostile. Mais on voit bien que ça pose au fond un problème de vivre ensemble. Pour dire.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure de disjonction à propos des jeunes, qui en effet ont des aspirations assez libertaires, tout en étant assez, paraissant moins intransigeant, on va dire, sur la nature démocratique des institutions. Est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie en elle-même? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait arriver qu'on passe à autre chose qu'à la démocratie?
Ben, alors c'est très difficile parce qu'aujourd'hui on a quand même des événements qui font que ce genre de discussion, c'est très agréable de les avoir, mais on peut se dire c'est un petit peu dérisoire quand même. C'est des problèmes importants, mais bon, il y a quand même un type qui dit j'appuie sur le bouton. Bon, donc j'ai le sentiment qu'on a une discussion intellectuelle en 1939. Je sais pas, vous voyez, bon, ça crée un sentiment un peu étrange. Mais il est évident que quand on regarde les enquêtes d'opinion, l'attachement à la démocratie représentative, libérale, etc., décline dans un très grand nombre de pays. Et au fond, quand on vit dans ce petit bout d'Europe qui est le nôtre, on a le sentiment aujourd'hui d'être devenu quand même une denrée assez rare. On avait imaginé, après la chute du mur, que... la démocratie est si bonne, si vertueuse, si économique, si efficace économiquement qu'elle allait se répandre. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, en Italie, on avait un gouvernement avec Salvini, qui est un héritier de Mussolini, et un parti populiste totalement délirant qui était majoritaire. Bon, ils sont tombés du bon côté, mais ouf! Si je peux me permettre, Trump n'est pas mort. Moi qui connais bien l'Amérique latine et vous aussi, on ne peut pas dire que c'est le triomphe de la démocratie.
Mais en France,
donc,
en
la démocratie, c'est quand même un truc très, 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 qui demande des ingrédients très, très particuliers. Et on peut quand même avoir le sentiment que oui, il y a des menaces, enfin, de mon point de vue, mais je ne veux pas dramatiser parce que il se passe des choses tellement pires. Mais oui, il y a des menaces pour la démocratie. Je vais donner un exemple extrêmement simple, sans vouloir rentrer dans une discussion politique. Après tout, les Corses sont Corses. Je n'ai pas personnellement une sympathie formidable pour ça. Il n'empêche qu'ils élisent des gens qui sont autonomistes, il n'empêche qu'il se passe rien, il n'empêche qu'un dingue tue un prisonnier corse, que des gamins foutent le feu avec des cocktails Molotov sur la gendarmerie de Bastia, et brutalement on va discuter. Donc quand même, comme processus démocratique, et je comprends qu'on discute, il vaut mieux ça qu'envoyer des régiments de CRS, mais...
Oui, ça fait
on voit bien quand même que les processus démocratiques,
qu'il y a discussion après violence.
Voilà, les processus démocratiques, c'est pas simplement élire des députés, présidents qui se débrouillent. Je veux dire que par ce qu'on appelle par exemple la démocratie sociale, c'est-à-dire le droit des gens à l'expression pour faire un travail intéressant, intelligent, dans des bonnes conditions, etc. On peut pas dire qu'on a formidablement progressé, quand même. Enfin, on a même l'impression que ça intéresse enfin, si je peux me permettre, ça intéresse la CFDT, grosso modo, mais après, pas grand monde. Donc, non, je crois pas qu'il y ait démocratie. Si je regarde le cas de l'école, par exemple, on avait fait des travaux avec Marie Durus sur les promesses de la massification. Alors, je laisse de côté la promesse d'égalité des chances, qui n'est pas tenue en France, mais qui n'est pas tenue, qui est peut-être pas tenable en plus. Bon, pour en parler. La promesse de capital social, cette augmentation du niveau de qualification, grosso modo, elle est tenue. Il y avait une promesse démocratique. L'école allait développer l'attachement aux vertus démocratiques. Elle ferait des citoyens meilleurs. Bon, plus on irait à l'école, plus on serait meilleur citoyen. Eh bien, le résultat en France et partout ailleurs, c'est que non. C'est que deviennent de meilleurs citoyens qui croient aux institutions, à la démocratie, ceux qui ont fortement réussi à l'école. Et ceux qui n'ont pas fortement réussi à l'école, non seulement n'adhèrent pas aux valeurs, adhèrent beaucoup moins aux valeurs démocratiques, mais voire ils sont hostiles. Parce qu'au fond, l'école est la machine démocratique qui ne les a pas fait rentrer. Donc, et si on regarde le vote, par exemple, c'est très, très spectaculaire. Le vote qui était marqué par la classe sociale est marqué aujourd'hui par le diplôme.
Alors, il y a encore beaucoup d'autres éléments dans le livre qu'on n'aura pas le temps d'aborder, donc je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore fait.